Donc cette fois, je vais vous lire le début de mon prochain livre, qui s'appelle donc Franck. Début qui a été publié par la revue D'ici là, son premier numéro. Et c'était la première fois que ce texte apparaissait quelque part, en dehors de mon ordinateur, le tiroir. C'est un livre écrit par lieu, et le hasard veut que le premier lieu soit Château-en-Dent. Donc pas ici exactement, mais disons un quartier. Donc je vais vous lire ce premier lieu-là. Et le début du deuxième, qui est la gare du Nord. Et puis, pourquoi ça ne serait pas là ? Château-Landon. C'est un immeuble très simple. 5 étages au soleil donnant sur les voies de départ. La porte d'entrée, peinte du même bordeaux que l'une des deux boutiques, fermée au rez-de-chaussée, est ajourée presque aux 2/3, compliquée de volutes. Derrière cette porte, que personne ne poussera, un hall donne sur une seconde porte, dont le verre craquelé ne laisse voir clairement ni escalier ni loge. Distors au contraire un amas déjà flou de lattes. Marche, planche, rampe. On dirait en passant qu'un enfant plein de rage a jeté ses caplas en l'air et qu'ils y sont restés, figé dans l'épaisseur des vitres. S'il y a une cour, peut-être. Un ascenseur, peu de chance. Au dernier étage, sous les toits, une fenêtre est ouverte. Au-dessus, décalée d'un mètre, l'unique cheminée laisse passer en arc de cercle un câble accroché à l'antenne, au sommet de l'immeuble d'à côté. Il faudrait grimper les échelons, 38 barreaux de fer enchâssés dans la brique, être à pic pour s'accorder ainsi de la cheminée à l'antenne, mais personne ne grimpera. Parisien, voyageur, venu là par hasard ou par nécessité, nous resterons en bas, sur le trottoir en face. À gauche de cette fenêtre, un rideau mi-fermé. À droite, 2 jardinières où poussent quelques plantes, 2-3 aromatiques qui, elles aussi, montent en volute, modeste, vers la main de la voisine qui n'a plus qu'à l'attendre pour leur couper la tête. On sait pourtant ce que valent des plantes à la fenêtre, surtout dans la rue Lafayette, à peine éclose, déjà tachée de crasse. Tu dors. Enfin, je ne sais pas. Déjà taché de crasse et de vapeur d'essence. Par la fenêtre ouverte, on ne voit que le blanc du mur. On devine, lorsqu'on vient de Jaurès, qu'en haut, près de la vitre, un ballon pour l'eau chaude, un meuble de cuisine ont été accrochés. En s'éloignant, avant d'arriver rue d'Alsace, un plafonnier rond et pâle surgit. C'est tout. C'est décidé. On n'y verra rien d'autre. De ta chambre, tu domines les toits qui abritent les quais. Les voies de la gare de l'Est se courbent, se répondent, ces longs filets de toit dont la matière mobile fait penser à des algues qui glissent entre les doigts, qui passent entre les cuisses. Quand on est sur le trottoir qui enjambe le pont, corps en biais, ajusté au treillage, on rêve de tout voir sans se tordre le cou, et de ta chambre donc. Mais toi, tu ne vois rien. Tu ne t'accoudes jamais pour embrasser le paysage. Connais-tu même ce pont, arrêt Château-Landon, où se trouve ton immeuble ? On dirait que tu ne dors pas. Allongé sur le lit, tu cherches, captes, l'ombre des croisillons frottés par le passage incessant des camions. On se demande comment dormir ici. Toi, le corps bien à plat, les bras derrière la nuque, par la fenêtre ouverte, disons que tu devines ce pont rue Lafayette. Faux treillis métalliques, masse de béton armé, l'ombre s'étire et tu t'étires de même. D'une pile à l'autre, tu répertories chaque ligne, compte les poutres maîtresses. Tu connais le volume, le nombre des boulons à leurs apparitions, distorsions sur le mur. Raccord, fissure, tu calcules le plus juste. Tu restitues les proportions selon le degré de lumière. Cherche, capte, recommence et t'accroche. Ce matin, là encore, agrégé au plafond, tu suis des yeux les arches, le triage qui bascule quand le 26 démarre et comprime son ombre sans jamais te lever. Mais il fait beau, lève-toi! Tu ne dors pas. Pourtant, tu n'entends rien. Ni scooter, ni voiture, ni même les trains qui rentrent de Strasbourg. Locomotive diesel, CC 72 000, née à notre naissance, tienne, mienne, et que les connaisseurs guettent par le grillage. Tu n'entends ni leur voix, ni le 26 qui freine, ni les nouveaux venus qui traversent le pont. Le livre que j'ai lu dit qu'avec de la chance, on peut apercevoir l'Orient Express qui rentre de Venise. Justement, le voilà. Trois maisons roulantes, longues de 17 mètres et demi, construites en bois de teck et en cristal, chauffées à vapeur, brillamment éclairées au gaz, écrit Edmond Abou, invité à le célébrer, môme qui se délecte et part frappé de tout. L'Orient Express sous ta fenêtre se déhanche, bloc, crac, vire, swing encore et soupir, serre et carre ses roues, fort soudain dans un éclair acide, son cri, sa clameur. Sous la nuque, c'est une vrille et quatre clous d'acier. Le pont entier sursaute, tu ne te retournes même pas. Alors quoi? Qu'est-ce que tu en dis? Bois de teck et cristal, ce sont des mots pour moi. D'accord, tu dois avoir raison. Clinquant, oui, sans doute. Mots dont tu penses qu'ils ne servent à rien. Mots qui, crois-tu, ne feront qu'alourdir ce qui passe ici. Les étourdir pour rien, rien, ça va, j'ai compris. De la monnaie de singe, qui te l'échangera? Personne. Debout sur le trottoir, je les garde pour moi. Bois de teck et cristal. Venise est dans ma poche. 15 ans que tu attends au 5e étage de l'immeuble qui donne sur les voies de départ. Tu as dû vouloir prendre un train et puis tu n'as pas. Tu as dû vouloir prendre un train, retourner Gare du Nord qui est juste à côté, et puis tu n'as pas pu. Tu es resté, locataire pour la nuit et qui loue à l'année, sans bagage. Dans ta chambre en 15 ans, un matelas, un évier, une cafetière. Pas un vêtement, pas un livre, pas d'objet. Un matelas, un évier, une cafetière et une tasse aussi, la même en 15 ans de café. Dès qu'il fait beau, tu regardes au plafond. Tu soutiens le pont à toi seul. Tu cherches à te rappeler comment, pourquoi tu es venu à Paris. Est-ce que tu vas trouver? Tendu, disséminé aux angles de la pièce, tu sondes, tu creuses, tu te raccroches à tes calculs. Égrener et dissoudre ce qui entre par ta fenêtre, bloc d'air et de lumière, vibration des moteurs, y trouver des réponses, ton travail du jour. Tu cherches, tu luttes, les précisions t'épuisent. Monter, fluctuant, corps collé au plafond, les 5 étages et le câble d'antenne et les voies de départ te contiennent à peine, déjà plus. Hissé, tracté aux angles de la pièce, par quoi? Des souvenirs, des muscles, des cellules démultipliées, tu veux, mais quoi? Nous y maintenir? Nous, les marcheurs, promeneurs, tenter d'inventer des histoires, au hasard la tienne, dès que l'un de nous lève la tête. Nous y maintenir? Comment? C'est à peine si tu flottes, surnages dans ton coin. Sur le trottoir d'en face partent les voyageurs, l'onde du cri dans l'oreille. Les connaisseurs les suivent, bercés de nostalgie, pris dans leur propre glu, sans ta science des ombres. Rien ne plane, désolé, sur les toits de Paris, rien ne va à ton rythme. Pourquoi Paris? Cette gare? Rien à faire, tu ne trouves pas. Le soir, de l'évier au matelas, vers la fenêtre ouverte, tu te sers un café. Une habitude des gens du Nord, me disais-tu. Je le savais déjà, mais je te laissais dire. Ce café vous endort, gens du Nord, et nous, il nous tourmente, parisiens. Voyageur, voilà pour la nuit. Et quand le temps est gris, qu'est-ce que tu peux bien faire? Ni café, ni hypnose des ombres sur le mur. Tu t'effaces vraiment. Tu fermes la fenêtre. Gare du Nord. 15 ans plus tôt. Vous êtes assis au pied d'un pilier, deux, trois, quatre peut-être, un ou deux chiens et quelques rats. Vos sacs, vos chiens, vos rats, la gare du Nord les supporte encore. C'est le matin. Les voyageurs obliquent après vous avoir vu, et nous, venus de Saint-Lazare, de la place Budapest, groupe semblable en apparence, vous saluons. Vous, trois ou quatre corps jeunes, courbés, de biais, de hauts piliers, tenus par quatre flancs de pierre, on dirait un bouquet tassé contre un mur, dont les tiges, figées dans le vol ou la chute, attendent le vent. Treillis, jeans, baskets, boucles, ceintures et bagues, des clous, des trous, bandages, bracelets, lacets, tout cet assortiment aide les passants qui, même à l'oreille, vous détectent. Vous essaimez le long du quai les maillons d'une chaîne qui vous lie et vous heurte. Vous laissez traîner le collier. Ce cliquetis, c'est une coquille dans laquelle vous tenez entier. Elle vous épouse et vous précède. C'est une tenue de plongeur, épaisse, imperméable, qui rend fragile l'habit des voyageurs. C'est tout ce qui pourrait blesser la peau, la vôtre, la leur, la langue, les yeux, et qui en suspens vous dessine, relie les poings comme dans les jeux d'enfants. Et pourtant, vous êtes adossé, assis ou allongé, comme s'il fallait être porté par l'axe, secouru par les angles, à 20 ans. Les piliers de pierre Gare du Nord ont d'étranges désirs. Couvrir, envelopper les colonnes de fonte qui, selon la légende, tissent un réseau veineux ou serpenté de pluie. Par un effet de construction, un creux dans le pylône qui draine l'orage jusqu'aux égouts, la gare entière ruisselle, verrière, charpente, demi-cercle de briques, la halle entière résonne. Les colonnes, quand on sait y coller l'oreille, murmurent, bruit de passes de gouttes, saccades, écoulements, un bercement du ciel précipité au sol qui s'arrête à mi-course. Les voyageurs n'entendent pas ce grondement délicat, mais vous, saisis dans le pilier depuis les premières heures, il est possible qu'il vous traverse. Un rythme régulier contrarié par les départs, les arrivées et bien sûr la fatigue, la faim, la peur, tout ce qu'on sait. Ce jour-là, pas de pluie. Vous avez découvert au squat une portée de ratons qui vous grimpe d'une épaule à l'autre. Évite les dents des chiens. Qu'en faire? Les montrer d'abord? Rêver de les vendre aux passants avant de les brandir? Les balancer en l'air? Mais non, même pas. On les donne à qui en voudra. Figés dans le vol ou la chute, quatre dos, tant de bras qui sont prêts à surgir, qui veulent dégainer et pour l'instant hésitent. Quatre blousons, bombers, peut-être un manteau long pour le plus long de tous, celui dont le visage semble biffé, un trait, le nez, joue creuse, le menton, toujours penché, comme si son cou ne tenait pas. Tant de jambes nerveuses, bouclées par des chaussures de plomb, rictus, talons, crispations des phalanges. Devant la gare, l'espace est clos. On en oublie tant il y en a. Ils passent en ronde. Terminus Nord, Ville du Nord, la Maison Blanche, le Nord Hôtel, Café du Nord, Tartine du Nord, Brasserie Falstaff. La ville d'Aulnay, la ville d'Arras, et ceux qui, croyant se distinguer, s'offrent l'air de la mer sur la place de Roubaix, au quai de l'Espérance et le quai des artistes. À gauche, c'est l'Apollo, l'Hôtel Picardie, deux étoiles jetées au carrefour. On y dort dans des lits jumeaux, au Picardie surtout, construction amovible au cube décalé dans la rue de Dunkerque. Levez les yeux, les dormeurs inconscients y pendent dans le vide, les autres se réfugient sur le matelas voisin. Fuit aussi devant vous, lorsque vous arrivez du squat, le Paris Nord Café, la Brasserie des Belges et l'Hôtel Richemont. Rien de ça n'est pour vous, vous le sentez d'instinct quand vous longez la rue. Et c'est pourquoi vous ne marchez qu'en face, collé contre les voies. De là, au coin de l'œil, se superposent les lustres et les plantes vertes, les miroirs, le velours, un décor tout en distorsion, en éclats remaillés, une mélasse en pesée de miettes scintillantes, parfaite pour attirer les mouches. D'ailleurs, il suffit d'observer le jeu des chefs de rang à l'entrée, le midi, coinçant la porte, pied en avant, Il bondit sur le trottoir et, d'un sourire, d'un coup sec du poignet dans le vide, entraîne le client dans le courant de la salle. Ils savent éviter les femmes seules, les noirs, les chômeurs uniformes. Leur cible, 50, barbus, droit descendu de Lille, ou Amiens, ou Cambrai. Brasserie, zinc, salle, baies vitrées donnant sur la rue. Derrière les brise-bises, le rideau de velours, un homme vous observe. Il suit le défilé des chiens, des sacs, et vous voit entrer dans la gare, petit groupe que la porte efface, rappelle dans un dernier battement, absorbe enfin. Il voudrait avancer par fragments, indécelables, morcelés, réduits à sa pupille, à un cil même, pour savoir où vous êtes passé, sans se faire repérer trop vite. Mais il reste à sa place, ne traverse pas, et espère à voix haute, dans la chaleur de la brasserie et la buée des vitres, ne jamais vous revoir, en tout cas pas tout de suite. À voix basse, suppose que ce serait trop tôt. De la deuxième rencontre, en général, on est déçus.